Europe Matin, le 6-9. François Claus.
Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Merci beaucoup de partager ce matin avec nous ce tête-à-tête sur Europe 1. Nous nous serions réveillés il y a 125 ans, le 29 décembre 1895, vraisemblablement tout émerveillés en lisant dans les journaux très populaires à l'époque ou en étant parmi les 33 privilégiés d'avoir assisté en France à ce qui est la première séance publique du cinématographe. Vous qui êtes également au-delà du Festival de Cannes, le directeur de l'Institut Lumière à Lyon, Thierry Frémaux, rappelez-nous un petit peu cet événement.
En fait, un an plus tôt, Lumière, le père, Antoine, demande à ses fils de s'intéresser à cette invention. Il avait vu le kinétoscope Edison, qui marchait pas mal, mais le kinétoscope Edison était une image individuelle, était une machine personnelle. Il fallait mettre d'abord une pièce de monnaie, philosophie américaine. Et Lumière dit non, il faut faire sortir l'image de cette boîte et la projeter sur le grand écran, parce qu'il y avait déjà des projections d'images fixes qui étaient faites à l'époque. Et il dit, je rentre à Lyon. Les fils trouveront. Et en effet, c'est d'abord Auguste, puis c'est Louis qui s'y met, et il trouve cette machine qui va s'appeler le cinématographe et qui obéit à cette injonction paternelle, c'est-à-dire que le film doit être projeté sur un grand écran. Et aujourd'hui, on peut dire que Lumière n'est pas seulement l'inventeur du tournage, mais il est aussi l'inventeur de la salle de cinéma. C'est pour ça qu'on a voulu un peu insisté, parce qu'en effet, il y a 125 ans pile, naissait le cinéma en tant que spectacle.
Et en France, qui plus est, nous étions là, oui, dans le quartier de l'Opéra, là, un boulevard des Capucines, je crois.
Oui, c'est ça, puis il y a toujours beaucoup de... Vous savez, les Français qui ne s'aiment pas beaucoup, c'est en France qu'on trouve le plus d'adversaires de l'idée que ce serait Lumière. Évidemment, Lumière n'a pas tout fait, il ne s'est pas levé un matin en disant « je vais inventer le cinéma ». Il y avait beaucoup d'autres inventeurs avant lui. Il y avait Thomas Edison, il y avait Émile Reynaud, il y avait Louis Bridge, il y avait toute une série de gens qui tentaient, là où ils étaient, de saisir l'esprit du temps. Il fallait animer les images. Bon, c'est Lumière, on va dire que avec un nom pareil, ça ne pouvait être que lui.
Vous signez une chronique très belle dans le Journal du Dimanche ce week-end, Thierry Frémaux. Vous faites part d'un optimisme aujourd'hui dans ce monde du cinéma absolument fermé. Quelle tristesse de voir Paris avec ses enseignes totalement éteintes. Vous nous dites que le cinéma a résisté à deux guerres. Il a résisté à l'arrivée de la télé à la fin des années 50 lorsqu'on lui prédisait sa mort. Et il a survécu. Il saura survivre à ce virus. Est-ce que ce n'est pas un optimisme un peu béat ?
Non, et vous savez qu'en mars, pendant le premier confinement, je ne vous aurais pas répondu de manière aussi nette parce qu'en effet, on a eu très peur. On a eu très peur parce que, d'abord, il y a eu plein de papiers sur la mort du cinéma. Et puis, quand le 22 juin, le gouvernement a rouvert les salles de cinéma de France, les gens sont revenus. Et au moment où elles s'arrêtent, fin octobre, elles étaient à nouveau pleines. On a trop dit qu'il n'y avait pas de films. Il y avait des films. Il n'y avait pas de blockbuster américain. Ben, les gens sont allés voir autre chose. Et là, le 15 décembre dernier, les spectateurs étaient prêts à y retourner. Et ils sont prêts à y retourner dès lors qu'elles ouvriront. Donc tout à coup, dans la même année où on a pu, en début d'année, avoir un peu d'inquiétude sérieuse, le gouvernement, évidemment, a été là, comme pour le reste de l'économie, pour soutenir les salles financièrement. Mais ça ne suffit pas. Il fallait aussi qu'on se sente bien tous ensemble dans cette idée qui a 125 ans. Et en effet, c'est pas faire preuve d'une sorte de béatitude un peu niaise que de dire le cinéma ne mourra pas, le cinéma ne mourra pas. Encore une fois, pour revenir au début, Lumière avait raison. Edison avait tort. Edison voulait une machine individuelle. Lumière a dit, mais non, il faut mettre... D'ailleurs, Edison a dit, mais il est fou, le Français, là. Alors, il met tout le monde dans la même salle, mais comment est-ce qu'il contrôle les recettes, etc. Et le cinéma a tout emporté. Le public, d'une certaine façon, est aussi le co-inventeur du cinéma. Et c'est le public qui va refaire le succès. Et c'est le public, aujourd'hui, à qui le cinéma manque et qui aussi fait entendre sa voix pour dire... Mais quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas rouvrir ces salles ? Bien sûr, il y a l'épidémie, il y a tout ça, mais ne nous oubliez pas.
En même temps, Thierry Frémaux, c'est le Français qui s'exprime, le pays qui a inventé le cinéma. On est un peu une exception dans le monde. Effectivement, on a fait plus de 200 millions d'entrées, 220 millions d'entrées l'année dernière. Mais la logique, j'allais dire économique, du système, et on voit même que les plateformes américaines aujourd'hui vont sortir conjointement leurs films sur leurs plateformes et dans les salles de cinéma, la logique ne va-t-elle pas, économique, ne va-t-elle pas vers la disparition des salles ? en dehors de la France.
La logique économique ira vers la logique économique. Et pour l'instant, en effet, vous avez raison, les plateformes sont triomphantes. Triomphale et triomphante. Bon. Après, la France n'est pas seulement, est pas une exception. Hein. Dans le nord de l'Europe, la fréquentation des salles était tout à fait extraordinaire. En Corée, au Japon, c'est tout à fait extraordinaire. Au Japon, les salles sont ouvertes et il y a des films qui battent tous les records de fréquentation. La Chine, dont on peut dire que c'est à la fois un très vieux pays et un jeune pays, de quoi la Chine s'est-elle entichée depuis une dizaine d'années ? Des salles de cinéma, on en construit des dizaines et des dizaines chaque semaine. Alors, c'est compliqué parce que on pourrait toujours passer en effet pour une sorte de passéisme qui veut qu'on ne touche pas à notre objet sacré. Alors d'abord non, on n'a pas envie de toucher à notre objet sacré, mais je ne crois pas du tout quand vous voyez qu'il y a une résurgence du vinyle. Que paraît-il qu'en Angleterre, il y a même une nouvelle mode qui est d'avoir sa propre cassette audio. Vous vous souvenez des cassettes audio?
Oui, j'en ai encore.
Oui, voilà, donc les gens ont ça.
On les rembobine avec un crayon.
Oui, absolument. Et donc, il y a, je crois, quelque chose qui ne doit pas être systématiquement être taxé de mélancolie, de nostalgie ou de quoi que ce soit. Le cinéma, plus ça va, et plus le cinéma en salle deviendra quelque chose de singulier. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose. Prenons par exemple sur Netflix le très beau film de David Fincher qui s'appelle « Manque » sur l'histoire de l'écriture du scénario de Citizen Kane. Eh bien ce film n'est pas le même si on le voit sur un écran de télévision à la maison ou si on le voit en salle sur un grand écran. C'était la même chose pour The Irishman.
Le film de Scorsese.
Et Scorsese. Oui, ils font le même travail. Ils sont metteurs en scène, ils font leur métier de cinéaste. Mais l'œuvre elle-même n'est pas la même. Quand vous allez au cinéma, vous prenez votre voiture, votre métro, vous y allez en vélo. Devant, il y a un type trop grand, alors vous changez de place. Vous vous en souvenez, on ne va pas... Mais si, je vais citer Godard, la télévision crée de l'oubli, le cinéma crée de la mémoire. Mais il y a quelque chose comme ça, le rapport... Philippe Labro me disait tout à l'heure que dimanche soir, La Grande Illusion sur C8 a fait 900 000 téléspectateurs. C'est gigantesque. Les gens ont besoin de romanesque, de fiction, et ça, c'est le cinéma qui le rapporte.
Et ils ont besoin de le partager, notamment dans cette période où on est confiné. C'est l'une des vertus du cinéma que de le partager. Merci beaucoup de cette ode aux salles de cinéma que vous nous avez offert ce matin, Thierry Frémaux. Un petit mot quand même pour le prochain Festival de Cannes. On sait que ça se prépare des mois à l'avance. Vous êtes inquiet, optimiste sur la future programmation?
Je ne vais pas vous dire que je suis inquiet, mais si je le suis, c'est comme citoyen, en tout cas très observateur de l'évolution de la pandémie. Nos dates, c'est du 11 au 22 mai, mais avec l'American et le CNC, on a déjà, et avec Pierre Lescure, on a déjà des dates de report possibles au mois de juillet en particulier, et on verra l'évolution. J'espère que d'ici la fin janvier, on saura annoncer des dates. Nos collègues du Festival d'Avignon, eux, sont en juillet, sont tout à fait à fond sur leurs dates. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le vaccin est un miracle, qu'ils sont arrivés si vite, et que tout ça va changer beaucoup de choses. L'euphorie nous accompagnera, les beaux jours reviendront. Enfin, et Cannes sera le premier événement mondial post-pandémie.
Eh bien, on prend date avec vous, le premier événement mondial post-pandémie du côté de la Croisette. Un grand merci Thierry Frémaux, c'était régénérant, je dirais, ce matin, vos propos.
Merci.